Chronique citoyenne avec Sébastien Saint-François.
Sébastien Saint-François, bonjour.
Salut.
Content de te retrouver.
Ben oui, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu en personne.
Ben oui, j'ai pris une petite pause, on s'est reposé l'un de l'autre.
Ben oui.
Il y a de moins. Mais l'actualité continue.
Hey, c'est quelque chose.
Et il se passe bien des affaires.
Ben, mais en fait,
il ne se passe pas bien des affaires.
Il se passe beaucoup de choses.
Oui, mais
on n'a pas le temps de parler de bien cuire nos hamburgers puis des algues bleues.
Oui, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans cette dynamique-là. On se pose des questions. Est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils partiront pas? Des élections en France, des élections au Royaume-Uni.
Royaume-Uni aujourd'hui, oui.
Ça bouge beaucoup. Ben, d'abord, parlons de chez nous.
Oui.
Commençons avec le
Québec. Oui, juste un mot là-dessus, parce que j'apprenais plutôt cette semaine. On a appris qu'il y avait finalement eu une entente avec les médecins généralistes par rapport au GAP, le guichet d'accès à la première ligne. On apprend néanmoins qu'il y a moins de rendez-vous malgré l'entente. Donc, encore une fois, ce sont les patients qui sont pris là-dedans. Moi, c'est un de mes dadas parce que, mardi prochain, j'ai rendez-vous chez ma médecin privé pour mon bilan annuel. Donc, je vais sortir de l'argent de ma poche, plusieurs centaines de dollars, malgré que je contribue à la caisse publique comme bien des gens. Donc, écoute, je trouve ça, encore une fois, je ne peux que déplorer la situation. On dit qu'il y a des cliniques qui veulent réduire leur participation au GAP, qui veulent mettre fin à ce qu'on appelle aux inscriptions collectives. Donc, on inscrit un paquet de monde, puis ensuite, on compose, on fait le 3 pour se faire diriger. Donc, on va se retrouver encore avec des patients orphelins. Donc, ça ne finit jamais. Et je trouve qu'à force de manigancer comme ça, les médecins ne s'organisent pas pour avoir la sympathie du bon public qui paye à la fois leur formation. On sait que ça coûte beaucoup moins cher étudier en médecine ici au Québec qu'ailleurs.
Mais il faut se la taper, la formation, quand même.
Oui, il faut se la taper, mais ça coûte quand même beaucoup moins cher.
N'est pas médecin qui veut.
Non. Mais ça coûte beaucoup moins cher qu'ailleurs. Ne serait-ce que dans d'autres provinces. Alors, et aussi, on peut dire qu'ils ont quand même un bon salaire, les médecins, depuis plusieurs années.
De formation, ce qu'il faut savoir à titre de médecin de famille.
Oui.
On n'en forme pas, c'est pas sexy comme
C'est ça le problème.
C'est
sexy au privé. Au privé, on n'a pas de problème de se trouver un médecin de famille. Il n'y a aucun problème, tu vas t'en trouver un médecin. Quoique, il y a déjà des cliniques, c'est rendu à ce point-là qu'il y a des cliniques privées qui n'acceptent plus de nouveaux patients parce qu'ils ne peuvent plus en accepter de nouveaux. On est rendu là. Fait que c'est très préoccupant pour l'avenir parce qu'on sait qu'on a une population qui vieillit puis que les besoins sont croissants. Puis ça en prend des médecins de famille.
Ouais.
C'est bien beau. On ne peut pas juste avoir des spécialistes. Oui, ça prend des spécialistes,
mais
c'est sûr.
Je comprends l'idée de pouvoir accéder au système par un médecin de famille, mais il va falloir trouver d'autres façons
Absolument,
de faire.
Absolument, parce que ça ne fonctionne pas.
Il va falloir trouver d'autres
façons de faire.
Des cliniques de super infirmières, des cliniques...
C'est pas normal que
désengorger le système.
Absolument. Puis c'est pas normal que dans un État où on envoie presque la moitié de nos impôts servent à financer le système de santé, qu'il y a des millions de Québécois qui doivent soit se ramasser à l'urgence parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller au privé, ou bien non sortir des centaines de dollars chaque fois qu'ils ont besoin de consulter un médecin au privé. Ce n'est pas normal. Donc oui, il va falloir trouver d'autres solutions. Je demeure craintif par rapport à la réforme du B parce que je trouve qu'on est en train de créer encore un plus gros monstre avec l'agence de santé. Je sais pas où ça s'en va, mais moi, comme citoyen, comme patient potentiel, comme tout le monde, tu sais, personne n'est à l'abri de problèmes de santé. Je trouve que c'est très préoccupant.
Est-ce qu'on va demander à des spécialistes de devenir médecin de famille, d'aller étudier pour devenir médecin de famille?
Pas sûr qu'ils vont accepter ça, parce que... Pas sûr.
En France, la montée de la droite se confirme.
Ben oui, donc on a eu les résultats du premier tour dimanche dernier. Donc le Rassemblement national est en tête avec 33%. Donc déjà 39 élus, dont Marine Le Pen. Alors, je pense que M. Macron a perdu son pari. Il a parié, mais je pense qu'il va perdre son pari. Mais je pense, et on regarde un peu ce qui se passe partout, je pense que c'est une mouvance globale vers la droite. Après des années de gauche, les gens sont tannés.
Populations... M. Macron, on n'est pas à gauche.
Non, il est au centre, mais je veux dire, quand même, la France, quand même, une population néanmoins est gouvernée pas mal à gauche. Là, beaucoup de programmes, puis l'État très interventionniste. Là, ça va pas bien, l'économie française, la dette, tout ça. C'est un phénomène, on le voit chez nos voisins du Sud en ce moment. Il y a d'autres facteurs aussi. Moi, j'ai écouté le débat la semaine passée, du début à la fin. Écoute, c'est un véritable désastre. Je n'en revenais pas de ce que je voyais. Et comme je te disais, hors d'onde, être américain, là, puis être obligé de faire un choix là, sur la base de ce que j'ai vu, je n'aurais d'autre choix que de voter pour Trump. Je serais incapable de voter pour Biden. Je veux dire, écoute, il n'était pas là.
Mais il n'y a pas grand monde aux États-Unis qui vote avec ce qu'ils voient.
Non, je le sais, mais...
Un faible pourcentage chez les autres qui font le
gouvernement. Je me mets dans une bulle, là. Je me mets dans une bulle, là, puis je suis dans la... J'écoute le débat, puis je dois faire un choix là, à la fin du débat. Trump, il a paru pas mal plus solide, qu'on le veuille
même
ou pas.
Mais
il a il a menti du début à la fin. Là. CNN a répertorié 30 mensonges pendant le débat. Je te parle de perception. Et on sait que ça grenouille présentement. Là. Puis comme une fois que cette mécanique-là est enclenchée, puis qu'on commence à parler, puis les rumeurs, puis le New York Times dit qu'il doit partir, puis doit céder sa place pour le bien du pays et tout ça. Comme tu disais dans ta revue de presse, je pense qu'on cherche une porte de sortie élégante. Mais ça ne sera pas facile là, pour la suite des choses, parce que j'écoutais hier, je pense que c'était sur CNN, au niveau du financement, tout le financement que Biden a amassé, on ne peut pas juste transférer ça à n'importe qui. Là, tu sais, le gouverneur de Californie qui veut se présenter. Si c'est Kamala Harris qui devient la candidate, c'est beaucoup plus facile sur le plan légal de lui transférer.
Puisqu'elle est vice-présidente.
Puisqu'elle est vice-présidente. Si c'est quelqu'un d'autre, entre guillemets, de l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Puis on n'a plus l'avantage du temps. Là, l'élection, c'est dans 4 mois. Moi, ce que je ne comprends pas dans cette histoire-là, c'est qu'on a gardé tout ça relativement secret pendant des mois, voire des années. Le dépérissement de Joe Biden qu'on a vu en direct à nos écrans le jeudi passé.
Mais est-ce qu'on j'en parle de dépérissement?
Oui, oui, il en a perdu. Écoute, il en a perdu.
Est-ce que, parce que, bon, il est plus lent, parce que c'est plus, un petit peu plus ardu à certains égards, ça fait un vilain président ou un vilain débatteur?
Bien, je vais te dire, nonobstant sa démarche, il avait des propos incohérents jeudi passé. J'ai écouté le débat du début à la fin. Il était incohérent, pas juste une fois, par bon bout. Il n'était pas capable d'attaquer Trump. Riposter, ses réponses, des fois, n'avaient aucun rapport. Je suis pas un médecin, je suis pas spécialiste là, du vieillissement, mais tu voyais qu'il n'était pas là. Puis malgré tout, il y avait eu des jours à se pratiquer. On disait qu'il était à Camp David, puis il se reposait, puis il se pratiquait, puis il se pratiquait, puis il se pratiquait. Ça n'a pas paru. Puis tout le monde le dit, tout le monde le dit, tout le monde le dit depuis. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va arriver, parce que là, à l'heure actuelle, il y a un sondage qui est sorti hier qui place Trump à 49 % versus 43 pour Biden. Je sais pas, mais Biden peut pas... Tu le vois-tu vraiment, là? Tu le vois-tu être réélu puis faire un autre 4 ans? Imagine à 86 ans, ça va être quoi? Puis les Américains sont pris avec le même problème, dans quelque sorte, avec Trump, parce que Trump a 78 ans. Oui, il pourrait être très solide jusqu'à 85, comme il pourrait dépérir lui aussi.
Qu'est-ce qui est arrivé à M. Biden? On lui a dit, Joe, si tu veux continuer, c'est toi qui décides.
Je ne sais pas ce qu'on lui a dit. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais de toute évidence, il y a quelqu'un qui dormait à quelque part.
Parce que dès le départ, on disait, M. Biden va faire un mandat, c'est le plan de match, puis Mme Harris va arriver, on l'a.
Mais Mme Harris n'est pas populaire, c'est ça le
problème. Mais même à ça, moi, être démocrate, puis même être américain, je dirais, la VP, puis sa presse, puis c'est pour elle que je vote. Quoi qu'en disent les sondages, quoi qu'en disaient les sondages, elle ne peut que remonter face à quelqu'un de démagogique.
Moi, je pense que les démocrates n'ont pas le choix, parce que sinon, c'est clair, net et précis que Trump est réélu. Je veux parler de ça aussi, parce que lundi, la Cour suprême a rendu une décision sur l'immunité présidentielle et on accorde raison à Trump dans le sens où on dit oui, dans l'exercice de ses fonctions, il a l'immunité, peu importe ce qu'il fait. Mais tu traces la ligne où? Entre oui, c'est dans l'exercice de mes fonctions ou non, c'est de la vengeance ou c'est de le.
Imagine.
On vient d'ouvrir une porte, pis ça va suivre les Américains pour toujours, là. Tu sais, la nomination de 3 juges à la Cour suprême, là, par Trump pendant son mandat, ça va suivre les Américains pendant des décennies. Parce que ces gens-là sont dans la cinquantaine. Ils peuvent rester là à vie, hein. Les juges de la Cour suprême sont là jusqu'à temps qu'ils décident de partir. On sait d'ailleurs que la juge qui est décédée.
Ginsburg.
On avait essayé de la pousser vers la sortie avant que Barack Obama quitte le pouvoir parce que Barack voulait nommer une juge. Pour la remplacer, elle a refusé. On connaît la suite des choses. Hein. Elle est morte pendant que Trump était président. Et donc, mais je ne sais pas ce qui va arriver. C'est ce qu'on vit là, ce qu'on vit aux États-Unis, c'est un peu de la science-fiction réelle. Là. Personne n'aurait pu imaginer un tel scénario dans l'histoire de ce pays-là. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais des prochains jours vont être déterminants. Je pense que Biden, il va falloir qu'une annonce se fasse incessamment. Parce que, comme j'ai dit, l'élection est dans quelques mois.
Ça pose aussi des questions sur le travail du président américain. Est-ce que c'est juste un travail de façade? Puis on est avec des apparatchiks, des hauts fonctionnaires dirigent le pays. Fahrenheit 9-1-1, te souviens-tu du film qui était sorti après le 11 septembre? C'était un brûlot là, qui nous montrait M. Bush qui allait jouer au golf tous les jours depuis le début de son élection. Ben, c'était des vacances, littéralement. Puis c'était tout le monde autour qui travaillait. On disait, ben voilà le travail d'un président américain. C'est juste d'être là en façade, c'est les autres qui travaillent.
On peut se poser la question. Puis rappelons-nous, allons plus en arrière, le deuxième mandat de Ronald Reagan. On dit qu'à la fin, vers la fin, il était Alzheimer. Puis c'est Nancy qui renait le show. Là.
Ouais.
Et lui, à sa deuxième élection, il avait 74 ans et déjà, on se posait des questions. Est-ce que c'est trop vieux? Là, on a quelqu'un qui a 81 ans qui va en avoir 82 bientôt. L'autre candidat qui vient d'avoir 78 ans. Donc, on est rendu ailleurs, mais on est rendu dans...
J'ai des matantes de 80 ans dépassées qui pourraient ramener les États-Unis pas mal plus.
Il ne faut pas généraliser, mais il faut regarder ce qu'on a comme candidat devant nous. C'est préoccupant. C'est très préoccupant. Ouais. Même Trump. Tu sais, Trump, bon, c'est un menteur. Il ment comme il respire, mais aussi...
Tu m'apprends quelque chose.
Il est incohérent par bout, lui aussi. Il dit des choses, puis on sait que c'est une soif
ça
de...
Ça se manifeste autrement.
S'il est réélu... Il va puis d'autant plus que la Cour suprême vient de lui accorder l'immunité. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire, lui? Il n'a rien à perdre. Là. Il ne peut plus se représenter une autre fois, à moins qu'il réussisse à changer la Constitution comme Poutine a
fait. Il serait bien capable.
Mais c'est très préoccupant.
Le Parti républicain lui appartient à toute fin presque.
Il a pris le parti en otage depuis
tout
plusieurs
à fait.
Années.
Parce que je pense que n'importe quel républicain censé...
Ben, on l'a vu cette année.
...dirait, c'est qui ce bonhomme-là? On ne veut pas rien savoir.
On l'a vu cette année. À quelle vitesse les primaires ont pris fin? S'il y a eu des primaires vraiment, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu.
Il a surfé là-dessus. Hey, rapidement, parce que là, ben, on s'en va vers la circulation météo. Sébastien Saint-François se doit d'en parler rapidement. Alors que tout le monde tourne à droite, sans vouloir tourner à droite, au Royaume-Uni, on tourne à gauche.
Oui, le Royaume-Uni, donc, tout indique que les travaillistes vont balayer la place. On parle de 400 coq-sièges qui leur reviendraient sur 600 coq. Écoute, ça fait 14 ans que les conservateurs sont là. Il y a eu le Brexit, il y a eu Boris Johnson, le clown, il y a eu plein d'affaires.
La COVID, dans tous les cas d'ailleurs, dans tous nos pays, la COVID, on sous-estime ou on surestime un des deux, mais ce sont des crises majeures qui ont fait en sorte que ben des sous ont sorti.
Je pense que les Britanniques sont tannés, comme les Canadiens ici sont tannés de Trudeau, les signaux sont là. Lui s'accroche, mais tout indique qu'il va être balayer de la carte. Le Parti libéral va perdre beaucoup de plumes, mais il s'accroche comme les conservateurs se sont accrochés. Et rappelons-nous, il y a eu une première ministre qui a succédé à Boris Johnson qui a été là 3 jours ou 4 jours. Écoute, fait que les gens, je pense qu'ils sont mûrs pour du changement. Puis ça va se manifester dans bien des pays, je pense, parce que bien des populations sont tannées de ce qui se passe puis ils veulent du changement.
Oui, voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, Sébastien, est-ce qu'on te retrouve la semaine prochaine?
Possiblement.
Tu t'accroches toi aussi comme M. Trudeau.
Si l'actualité est là et généreuse, on va voir ça. Sinon,
merci.
L'autre semaine, on verra.
Merci Sébastien Saint-François. Salut. De bonne heure le matin. Avec Charles Gaudreau.